Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sylvie Grumbach. Elle est l'une des 5 cofondatrices du Palace, la mythique boîte de nuit parisienne des années 70-80, et la fondatrice de Deuxième Bureau, un bureau de communication qui a accompagné beaucoup de marques et pas mal de créateurs très connus, et elle accompagne toujours des marques très connues et des événements dans l'art, dans la mode, etc. Bonjour Sylvie.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Je suis né dans la mode. Mon grand-père était fabricant de prêt-à-porter et à sa mort, mon frère Didier l'a développé ses mains d'ess. En se liant avec des couturiers pour fabriquer leur prêt-à-porter, ce qui n'existe, les couturiers à l'époque n'avaient pas de deuxième ligne, et aussi en développant donc le prêt-à-porter, donc l'industrie du prêt-à-porter qui existait très peu à l'époque.
Très bien. Et alors, racontez-moi un peu votre enfance dans ce monde d'industriel de la mode. Comment vous avez commencé votre carrière ? Enfin, comment vous avez été élevé ? Comment vous avez commencé votre carrière ? C'était quoi vos premières expériences vos premières expériences professionnelles, en fait ?
Alors, Didier avait 17 ans à la mort de mon grand-père. Donc, ma mère l'emmenait au bureau souvent. À table, on entendait parler de planning. Ça n'existait pas non plus. De collection, d'essayage avec des mannequins, de problèmes avec les couturiers ou pas. Donc j'ai été élevée en entendant parler de mode à partir de moi j'avais donc 7 ans à l'époque, entre 7 et 15 ans. À 15 ans, pendant les vacances scolaires, j'allais habiller les mannequins parce que c'est vrai que à l'époque il y avait des mannequins cabines chez Mendes qui passaient les collections. Il y en avait 2 ou 3 qui passaient les collections devant les acheteurs, devant les boutiques qui venaient en tous les cas beaucoup d'Europe et d'Amérique.
Vous nous rappelez comment ça fonctionnait vraiment à l'époque ? Donc là on parle des années quoi, 60-70, hein, c'est ça hein ?
On parle des années 65-70, oui.
Ouais, exactement. Et à l'époque, l'industrie du textile, l'industrie de la mode, ça ressemble à quoi ? Parce qu'on a quand même beaucoup évolué depuis.
Alors, le métier de couturière existait beaucoup. Les maisons de couture vendaient des patrons à des grands magasins ou vendaient des patrons. Et les couturières faisaient beaucoup de vêtements sur mesure pour des particuliers. Dans ma tendre enfance, on avait une couturière qui venait le mardi, repriser les draps, mais en même temps raccourcir des ourlets, faire des reprises, etc.
Et donc, ouais, le prêt-à-porter n'existait pas encore. Grosso modo, voilà, c'était les couturières prenaient des patrons dans les magazines, enfin même pas dans les magazines, mais en tout cas les achetaient directement dans les grands magasins. Et le prêt-à-porter n'existait pas. Et c'était après, j'imagine qu'il y avait les tailleurs, et puis il y avait quand même les grandes maisons de couture.
Il y avait du prêt-à-porter, puisque les grands magasins quand même existaient.
Ouais.
Mais le prêt-à-porter de marque, enfin de couturier, n'existait pas.
D'accord.
Très bien. Et vous, alors, vous grandissez dans cette famille d'industriels. Quel est votre premier contact au monde professionnel, finalement? Enfin, qu'est-ce que vous étudiez? Comment vous êtes élevé? Et c'est quoi votre première expérience professionnelle?
J'ai décidé très vite d'arrêter mes études, donc ne me demandez pas mes diplômes. Et je suis rentré faire des stages, un à la Woolmark, je me suis pas vraiment entendu avec la directrice de style parce que on me destinait beaucoup plus au style qu'à la presse, qu'à un métier qui n'existait pas vraiment d'ailleurs, alors que le métier de styliste se développait avec l'avenue d'Emmanuel Kahn, Christiane Bailly, Ojar, etc., qui fabriquaient, qui étaient les créateurs pour des marques de sportswear ou de prêt-à-porter.
D'accord. Et donc, il me semble qu'en préparant l'interview, vous m'avez dit que vous aviez quitté donc Woolmark et qu'ensuite vous êtes rentré chez Ungaro, c'est ça?
Alors j'ai quitté la Woolmark, après je suis allé dans une holding qui fabriquait aussi bien pour la Redoute que pour des petites culottes en non tissé. Alors grande révolution technique, le non tissé. Eh
oui.
Surtout pour les hôpitaux, mais comme la Mafia, qui était une agence de publicité, était leur agence. Elles avaient fait des petites culottes en non tissé en berlingot et on les vendait à Prise Unique. Mafia était aussi l'agence de publicité de Prise Unique.
D'accord, ok. Et donc là, vous rentrez donc chez Ungaro à la presse, attaché de presse. Et puis, il me semble que vous quittez Ungaro assez rapidement pour rejoindre l'aventure créateur et industriel. Racontez-nous un petit peu créateur et industriel, c'était quoi ce truc-là?
Alors, il faut vous dire que je travaillais pour le prêt-à-porter Ungaro qui était fabriqué par Mendes. Et donc, je travaillais au sein de Mendes qui était responsable de la vente et de la promotion de cette collection. C'est vrai que en 71, Didier Grimbach, mon frère, et André Poutman, à qui il avait demandé de se joindre à lui, ont fait une nouvelle aventure, ont développé une nouvelle aventure qui s'appelait Créateur et Industriel. Parce que Didier trouvait que il fallait faire des nouvelles marques de prêt-à-porter de luxe en donnant sa chance à de plus jeunes créateurs que les créateurs qui se trouvaient dans les maisons de couture.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'il y a un collectif stylistes qui s'est développé, où on retrouve Jean-Charles de Castelbajac, Emmanuel Kahn, mais aussi des créateurs anglais comme Jean Muir, aussi Clark.
Issey Miyake aussi, il me semble.
Issey Miyake qui est venu un tout petit peu plus tard, ouais. mais qui était dans le mouvement.
Ouais. Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Marquette.
Alors Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier et Montana n'ont jamais fait partie de créateurs et industriels.
D'accord. Ok. C'est après, c'est plus tard.
Oui.
Juste pour une petite parenthèse sur créateurs et industriels. Donc Didier Grimbach, votre frère, on a bien compris qui c'était. André Poutman, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas André Poutman, vous pouvez nous dire en deux mots qui c'était?
André Poutman était la femme art dealer et elle était très liée avec les dames de la mafia, Maïmé Arnaudin et Denise Fayol. Et ces trois personnes ont développé à Prise Unique des lignes aussi bien de mode, mais aussi André avait eu l'idée de vendre des lithographies d'artistes à prise unique. C'est-à-dire que prise unique était devenue un petit grand magasin à la portée de tous.
D'accord, très bien. Et André a eu sa carrière de designer, de décoratrice, etc. Après créateur industriel.
Absolument.
C'est ça, hein ? D'accord.
Elle a commencé très tardivement. Je pense en 78, disons.
D'accord. Ah ouais, c'est vraiment 75, sur le tard. Ouais.
75, 76, d'accord. 77, je sais pas. 60.
Très bien. Et juste pour finir sur créateur industriel, c'était quand même un peu un Colette 20 ans avant Colette, quoi.
Alors, Mendès fabriquait des collections et avait ouvert un magasin rue de Rennes,
ouais,
qui était ce qu'on appelait un petit grand magasin, un petit bindel si, pour, par rapport à ce qu'on pouvait trouver à New York, qui était un grand magasin où on retrouvait aussi bien des fleurs, des journaux, des livres, de la mode, hommes, femmes, et des meubles.
Ouais, c'était très lifestyle, quoi.
C'était Colette, avant 20 ans avant Colette.
D'accord. Et vous, dans tout ça, vous faisiez quoi ?
Alors moi, je m'occupais d'aider avant à commercialiser ces créateurs et de leur promotion, et puis d'être responsable des achats du magasin.
D'accord, ok.
C'est comme ça, le directeur m'a demandé d'acheter des lignes un peu plus commerciales, je me suis trouvé à acheter des vêtements, des imperméables de Thierry Mugler et des vêtements de Claude Montana, qui travaillait pour des marques du Sentier à l'époque.
Ouais. Comment vous les trouviez à l'époque, tous ces créateurs ?
Je pense qu'il existe encore ce genre de représentants qui font de la route. Enfin, je sais pas, maintenant, peut-être avec Internet, ça n'existe certainement plus d'ailleurs.
Ouais, des agents. Et,
ouais. Et c'était donc des agents commerciaux qui faisaient la route et qui présentaient dans qui avaient des valises, qui arrivaient avec des valises, qui prenaient des rendez-vous et qui venaient présenter des collections. Moi-même, je me suis amusé. Deux saisons à faire de la route pour vendre des collections d'Emmanuel Kahn et Christiane Bailly, et c'est vrai en France, et c'est vrai et en Amérique d'ailleurs et à New York, et c'est vrai que c'est assez disturbant de présenter ces collections. Alors moi, ça m'a beaucoup disturbé de présenter ces collections sur moi, parce que j'avais la taille, à des boutiques de province. C'est même, ça vous remet un peu les pieds sur terre de comment s'habillent les gens ou comment veulent s'habiller les gens.
Ouais. Ah ouais, c'est clair. Il y avait une petite déconnexion déjà à l'époque. Enfin, elle était peut-être plus importante qu'aujourd'hui, en fait, la déconnexion.
Ouais, je me rappelle, c'était donc, on va se dire, en 80. Non, c'était plutôt qu'en 90, mais en tous les cas, la mode était au manteau un peu long.
Ouais.
Et évidemment, comme j'avais presque 15 centimètres de plus que les vendeuses, quand elles mettaient le manteau, ça leur arrivait à la cheville, et moi, ça m'arrivait juste au mollet,
au genou. Au genou, ouais.
Donc, c'est vrai que les proportions étaient un petit peu difficiles à accepter.
Et donc, créateur industriel, ça se termine comment ? Parce que derrière, vous êtes parti chez Valentino. Mais comment ça se termine, créateur industriel ? Racontez-nous.
Alors, les investisseurs dans créateur et industriel, qui n'avaient rien à voir avec la mode, ont trouvé que leur investissement ne leur apportait pas assez vite un retour. Et ont voulu arrêter le magasin et l'expérience, parce que je pense que c'était un petit peu tôt. Et voilà, donc le magasin a fermé. Et comme Valentino était fabriqué par Mendès, je me suis retrouvé
Vous occupez de Valentino.
M'occuper du prêt-à-porter de Valentino.
Pour la presse.
Pour la presse.
D'accord. Très bien. Et ben racontez-nous un petit peu cette expérience Valentino. Comment ça se passait? C'était alors peut-être une autre façon d'aborder le sujet. C'est à l'époque comment on s'occupait justement. C'était quoi le métier d'attaché de presse?
C'est comme maintenant.
Ouais.
dans des relations de presse classiques. Il y a un défilé, alors c'était, ça se présentait plus dans des salons plus petits que maintenant dans des grandes salles. Mais voilà, il y avait des défilés, on sortait des vêtements à la presse, on appelait les journalistes pour qu'ils viennent voir quand ils n'étaient pas présents au défilé, on leur envoyait des photos de presse, exactement la même chose.
Ouais,
au niveau de rapport entre la presse et les attachés de presse, entre les journalistes et les attachés de presse.
D'accord. Donc encore une fois, c'était le carnet d'adresses qui faisait un bon attaché de presse en fait, et ses relations qu'il avait avec l'ensemble des journalistes de l'époque.
Tout à fait.
Ça n'a pas
là,
changé.
De ce côté-là, ouais. Je pense que rien n'a changé.
Ouais. Et comment on faisait alors? Est-ce que vous avez des petits tips pour avoir des bonnes relations avec les journalistes?
Je pense qu'il faut que la journaliste ait confiance en vous, en votre discours, et que vous ayez, soyez pleinement investi du sujet dont vous parlez, que ce soit de la mode ou de la musique ou un film.
Ouais.
Je pense que savoir parler de mode ou enfin du vêtement ou de la mode que représente une marque est très intéressante parce que c'est votre discours qui peut faire basculer ce que pense un journaliste.
Ouais, c'est un rapport de séduction et de négociation, mais il faut convaincre le journaliste que votre marque est incroyable, quoi.
C'est ça.
Et que votre créateur est fabuleux.
Alors maintenant, on a peut-être plus la politique de l'image pour faire comprendre ce dont on parle moins, puisque le texte est devenu un peu moins important.
Oui, alors ça, c'est incroyable. Mais parlons-en justement de ce sujet-là, parce que je suis quand même assez effaré. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus rien, en fait. parce que je suis en train de travailler sur un projet personnellement, et quand je demande à mes amis garçons et filles, qu'est-ce que vous lisez comme magazine, qu'est-ce que vous lisez comme blog, qu'est-ce que vous lisez comme journal, et les gens ne savent pas quoi me dire, quoi. Et je suis assez effaré, quoi.
Heureusement pour vous, les gens écoutent encore.
Heureusement pour moi, les gens écoutent et regardent des vidéos et lisent peut-être les posts Instagram. Mais c'est vrai que ça s'est quand même vachement réduit et c'est assez effarant, quoi.
Mais on voit comme des magazines comme Magazine,
ouais.
Qui tout d'un coup réduit ses textes à une page. Quand ouais. Il parle d'un sujet, donc c'est vrai que les gens lisent beaucoup, ne lisent plus.
Ne lisent plus du tout.
Plus du tout.
Mais moi, franchement, ça me fait peur.
Mais ça va aussi dans la manière dont on remplit des appels d'offres ou des dossiers. Ouais, je vois avec les stagiaires qui rentrent au bureau, ils me disent « on fait des PowerPoint ». Alors je fais « oui, on fait des PowerPoint ». Mais dans un PowerPoint, il n'y a pas une phrase.
Il n'y a pas un texte, ouais. Il n'y a rien.
Il n'y a même pas une phrase qui est construite.
C'est que des bullet points.
Oui, oui, tout à fait. Donc quand je dis « mais ça serait bien d'expliquer », parce que la personne qui lit n'est pas au courant de ce qu'on écrit,
ouais.
C'est très très compliqué à ouais. faire comprendre. Ouais.
Mais alors aujourd'hui, comment on fait on fait un communiqué de presse, c'est quoi? C'est un texte qui est très court, avec des bullet points, justement. Racontez-nous ça.
C'est un texte qui est beaucoup plus court qu'auparavant, ça c'est sûr. Et où quand même, il y a les 3-4 phrases que pourrait reprendre un journaliste s'il n'a pas envie d'approfondir le sujet.
Ouais, on prémâche le travail. Et alors justement, chez Valentino, vous faisiez des communiqués de presse qui faisaient des pages et des pages et des pages?
Non, on faisait pas on racontait quand même un petit peu la collection. Ouais. On parlait beaucoup des tissus, alors qu'on parle beaucoup, on ne parle plus jamais d'un tissu. Ouais. On parle de s'il était en soie, si c'était du gazard, si c'était, enfin, du coton, si c'était, moi, je vois très peu de descriptions.
Non.
De la matière. La matière est dans le vêtement est devenue peu importante.
D'accord. Donc à l'époque, on captait les gens par la description de la collection, par la description des matières, etc. C'était
absolument.
Ça
ouais. Les Américains, c'était washing machine, ouais. avec l'arrivée des fibres comme le polyester et le.
D'accord.
Les nouvelles fibres, en fait, ouais. Les nouvelles technologies qui développaient des matières. Donc, et c'est vrai que vendre à l'époque, enfin dans les années 80, vendre du lin en Amérique, c'était pour ainsi dire impossible parce que ça se froissait.
Ouais. Donc, il fallait que ça soit nickel.
Ouais,
ouais. C'est incroyable. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour capter l'attention des journalistes?
Je pense, on parle d'image. D'ailleurs, je pense que toutes les marques, enfin les trois quarts des marques qui se construisent maintenant et qui ont un peu pignon sur rue sont des gens qui sont lancés beaucoup par l'image et par justement ces nouvelles réseaux sociaux font que vous pouvez avoir des ventes et des clients directement et vous développer grâce à ce contact direct.
Mais après tout, enfin, il faut quand même encore raconter une histoire. Les gens, ils achètent une histoire. Dans le dernier épisode de Game of Thrones, d'ailleurs, on parlait de ça. Comme il s'appelle Tyrion Lannister, il parle de ça. Excusez-moi de parler de Game of Thrones dans Entreprendre dans la mode, mais en tout cas, il dit, voilà, une bonne histoire, il faut une bonne histoire pour que les gens s'en rappellent. Et je pense que ça n'a pas changé. Il faut quand même une très bonne histoire, en plus de l'image.
Sauf qu'avant, on portait pas de t-shirt, de jeans et de sneakers.
Oui.
Donc on avait quand même un certain dictat de mode. Y avait quand même cette année, c'est des jupes en trapèze, ou c'est des jupes plissées, ou c'est des jupes culottes, c'est des manteaux épaulés, c'est des manteaux manches raglans, ou c'est... Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée des Japonais, enfin comme Yoji et comme des garçons, les dictats de mode ont volé en éclats. Et le noir déjà est apparu aussi, beaucoup dans les collections. Et c'est vrai que ça a permis aux gens de s'habiller un petit peu comme il l'entendait, comme il le voulait, comme il le sentait, suivant les différentes heures, les occasions de la journée, disons.
Très bien. Et donc, alors, Valentino, comment ça se termine? Pourquoi vous partez de Valentino? Parce que vous êtes resté quand même 4 ans là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
Je sortais beaucoup avec toute l'équipe de Valentino. À l'époque, il y avait un endroit à la mode où on allait souvent dîner, qui était un restaurant, et au sous-sol, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le 7, qui était 7 rue Sainte-Anne. C'était un restaurant très élégant où beaucoup de gens allaient souper le soir après le spectacle, qui réunissait aussi bien des gens de la mode que du théâtre, que de la danse. Parce que Fabrice, son propriétaire, était quelqu'un qui aimait beaucoup la culture.
Ouais, c'est Fabrice Aimer, hein, c'est ça.
Fabrice Aimer. Fabrice trouvait que le 7 était trop petit par rapport à la clientèle qu'il avait. Un jour, il a trouvé le Palace avec un de ses collaborateurs que lui avait présenté Michel Guy, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et comme je allais au 7 assez souvent, et m'amuser, enfin danser. Mmh. C'est-à-dire que Valentino quittait la table après le dîner et nous, les plus jeunes, nous descendions écouter la musique de Guy Cuevas et danser toute la nuit. Voilà.
Guy Cuevas qui était le DJ à l'époque.
On peut dire le premier DJ qui existait.
D'accord. Et Valentino ne dansait pas, lui ?
Non, Valentino rentrait calmement chez lui, travaillait. Il venait à l'époque des collections, puisqu'il présentait à Paris, et le prêt-à-porter. Et donc, il rentrait sagement après le dîner. Et voilà.
D'accord.
Et laissait les jeunes... Sans canailler. S'exprimer.
J'ai une autre question. Valentino, typiquement, pour comprendre un peu l'industrie de l'époque, il était romain, son siège social était basé à Rome. Mais c'était Mendès qui fabriquait toutes ses collections ou Mendès fabriquait uniquement pour la France ?
Non, Mendès fabriquait, pour tous les couturiers d'ailleurs, fabriquait le prêt-à-porter. C'est-à-dire Valentino présentait à Rome la couture, mais il présentait le prêt-à-porter à Paris. Et Mendès fabriquait et diffusait le prêt-à-porter dans le monde entier.
D'accord, très bien.
Comme Mendès l'a fait pour Saint-Laurent-Rive-Gauche, pour Givenchy, Chanel à une époque, etc.
D'accord. Revenons à l'histoire du palace. Parce que là, donc Fabrice Aymer rachète le palace. Comment vous faites embarquer dans cette histoire, vous ?
Je vous ai dit en dansant.
D'accord, donc il a vu en vous quelqu'un qui aimait la fête. Et il s'est dit, il faut que j'embarque avec moi pour attirer tout le monde de la mode.
Voilà, c'est à peu près ça. Fabrice a eu l'idée de s'entourer d'une famille où on venait tous de mondes différents. Y avait celui qui venait du théâtre, celui qui venait... du spectacle, disons, de variété, moi de la mode, etc., Claude de la nuit. Et nous avons fait cette famille autour de Fabrice pour développer le palace avec nos familles respectives.
Très bien.
On pouvait dire peut-être les influenceurs de l'époque.
C'était les influenceurs de l'époque, ouais. Très bien. Et alors, racontez-nous un petit peu le palace. On va pas passer 3 heures sur le palace, mais quand même, comment on fait ? Comment le palace devient le palace ? Comment ce lieu devient aussi mythique ? Parce que, alors, même si peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas le palace, ça m'étonnerait. C'est quand même devenu une boîte mythique, quoi, où il y a eu les plus grosses fêtes. Tout le monde de la culture, de la musique, de la mode, de la politique s'est croisé au palace. Ça a été assez court, mais ça a été très intense quand même.
Alors, l'époque de Fabrice Aymer a été assez courte puisqu'elle a duré 5 ans.
Ouais.
Le palace, d'abord, était un lieu d'une beauté extraordinaire que Fabrice avait rénové entièrement comme il avait été fait à sa construction. Et donc, en remettant les ors... les lustres et etc. La seule chose qu'il avait fait, c'est d'enlever les sièges de l'orchestre pour pouvoir
faire
danser.
Le dance floor. Ouais.
Donc déjà, quand on rentrait au palace et qu'on avait à défiler un long couloir pour rentrer à l'orchestre, dans l'orchestre, on était déjà un peu subjugué par la musique qu'on entendait, mais par le décor qui vous prenait, et pour faire son entrée, on était obligé de faire une entrée remarquée si on avait envie de se faire remarquer tout de suite. On l'a construit parce que, comme je vous disais, on était une famille composée de différents éléments. Qui ont amené, qui avaient dans l'idée de développer ce lieu qu'on trouvait tous extraordinaire, et on avait tous une envie de fête et une envie de faire connaître ce lieu à plus de gens possible. Oui, c'est comme une marque que vous avez envie de développer et de faire connaître à un maximum de gens.
Qu'est-ce qui a fait le succès vraiment ? C'était quoi la la stratégie que vous avez mis en place pour vraiment faire le succès de cet endroit?
Mais je crois que on a partagé notre envie de faire de ce lieu le lieu mythique de l'époque, toujours parce que nous-mêmes on avait envie de connaître des gens différents que ceux de notre famille ou de partager avec le plus grand nombre. Je pense que quand on réussit beaucoup, quand on a réussi bien, c'est quand même qu'on a fait une équipe dont les forces étaient complémentaires. Dans la mode, il faut un créateur et un commercial ou un financier. On peut pas être financier quand on est créateur. Ouais. C'est pas le même métier. Je pense que là, il y avait ces forces différentes qui ont fait que ça puisse marcher dans un lieu qui de toutes les manières vous embellissait quand on rentrait dedans.
Ouais. C'est quoi les meilleurs moments pour vous? Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là?
Alors d'abord, ces années-là, c'était quand même l'insouciance. C'était quand même une époque totalement où on était complètement insouciant. Et on ne se posait pas de problème sur notre avenir. Alors peut-être parce qu'on trouvait du boulot peut-être à l'époque plus facilement, ou parce que on s'était battu peut-être pour s'exprimer de différentes façons, mais c'était quand même la liberté d'expression était quand même plus grande que celle d'aujourd'hui. Si on parle rien que de faire du bruit, rien que de fumer dans un endroit, rien que de voilà. Je pense qu'il y avait une permissivité qui était plus grande.
Mais ça, c'était propre au microcosme, à ce microcosme-là, ou c'était vraiment toute la société était beaucoup plus permissive d'une certaine façon, beaucoup plus libre. Enfin, c'était quand même. Pas non
je plus pense que en fait, nos parents quand même sortaient de la guerre. On va se dire respirer, enfin après tout ce qu'ils avaient vécu, même s'ils parlaient pas de ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre. C'est vrai que si on appelle ça les 30 glorieuses, il faut bien qu'elles s'appellent quelque chose.
Oui, il y a bien raison, c'est clair.
Donc on a pu, puis il y avait 68.
Ouais.
Qui nous avait libérés, disons, enfin où on s'était, où on avait pu parler, s'exprimer et être dans la rue. Donc je pense que cela a fait que cela aussi puisse arriver. En plus, c'est vrai que le palace était un endroit très grand, puisqu'on pouvait être on a pu être jusqu'à 3000 personnes par soir, enfin voire passer 3000 personnes par soir. Ce qui est énorme, quoi. Donc c'est un microcosme
assez important,
un peu important.
Ouais, c'est clair. Il y avait une chose que je trouvais hyper intéressante quand on a préparé l'interview, que vous me disiez, c'était que toutes les photos qu'on voit du palace, elles étaient prises pour des fêtes particulières, et que le reste du temps vous interdisiez les photos, et que en fait ces photos prises lors de ces événements incroyables, extraordinaires, servaient de d'image pour faire la publicité dans le monde entier, en fait.
Oui, bah c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que au 7, c'était un endroit privé. On avait toujours l'habitude de dire ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit ne me sort pas à l'extérieur. Qui était
ce qui se passe au 7 reste au 7, les gars.
Voilà. Ouais. Et au palace aussi, moi, on était d'abord à l'époque, il n'y avait pas de
smartphone. Ouais.
De smartphone, il y avait même les caméras, il y avait à peine des vidéos 8 mm.
Super 8.
Donc, c'était beaucoup plus facile d'interdire ou de demander qu'on ne fasse pas de photos. C'est vrai que Fabrice avait pris l'habitude de nous demander de fêter le calendrier. C'est pour ça qu'il y avait des fêtes assez souvent, aussi bien pour Mardi Gras que pour Pâques, pour
le bal des pompiers.
Mais aussi, comme il aimait beaucoup la mode et qu'il y avait beaucoup de créateurs, enfin de couturiers qui venaient dîner chez lui. On avait eu l'idée de fêter la mode tous les 6 mois, c'est-à-dire on faisait une fête de la mode tous les 6 mois. Mmh. Et c'est vrai que bien ces fêtes, comme tous les couturiers arrivaient avec leurs mannequins habillés dans les créations qu'ils venaient de présenter ou les dernières qui on permettait à la presse et enfin en tous les cas aux photographes d'être présents. D'ailleurs, on leur demandait même de s'habiller. Donc, les photographes aussi étaient habillés souvent dans le thème de la soirée. Et ces photos faisaient le tour du monde, comme maintenant, puisque l'œil de Vogue
Purple Night, trucs comme ça.
Ouais. Ou c'est vous, ouais. Je sais pas, ouais. Qui
c'est où.
Ouais. ou l'Italien. Enfin, tous les Vogue avaient leur page de mondanité. Donc, ouais. On était dans toutes ces pages du monde entier, des magazines de papier glacé.
Très bien. Et comment c'est terminé? Je crois que Fabrice Aimer a disparu, malheureusement. Il est parti. Et donc, j'imagine que dans la foulée, le groupe a un peu éclaté, quoi. Le groupe des cinq trublions qui avaient cofondé le palace, ça s'est terminé à ce moment-là, quoi. J'ai l'impression que Fabrice Aimer était vraiment le ciment de tout ça, quand même.
Oui, ben, c'était l'initiateur, et ouais. C'est vrai que, il y avait probablement de la jalousie de certains. C'est vrai qu'à sa mort, étant la seule fille du groupe, je me suis un peu fâchée avec mes frères putatifs. Et j'ai quitté le palace, disons peut-être sur un peu vite, mais parce que j'avais pas apprécié une certaine réflexion, donc je me suis retrouvée dehors.
D'accord. Et derrière, donc, vous avez rejoint le Bain-Douche. Vous avez cofondé le Bain-Douche aussi?
Non.
Non.
J'ai d'abord fondé le deuxième bureau. D'accord. Et les Bain-Douches qui venaient d'être achetés étaient par Hubert Boukobza. Hubert était venu me demander si je voulais. Si je voulais l'aider à promouvoir les bains, nouvelle manière. J'ai d'abord dit non, et puis 6-8 mois après, il est revenu. Et là, j'ai dit oui, parce que j'avais toujours envie de danser.
Très bien. Est-ce que ça existait, est-ce que le palace a réexisté à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un autre lieu dans l'histoire de la nuit dans le monde entier? Est-ce que ce moment de frénésie incroyable, il a existé à un autre endroit?
On a l'habitude de dire le 54 et le palace, mais pour moi le 54 était beaucoup moins ouvert. Peut-être c'est parce que je connaissais moins les New-Yorkais que la faune new-yorkaise, peut-être, était moins sociétal. Enfin, pour moi, le palace, quand même, était la mixité des gens était impressionnante. Les riches, entre guillemets, venaient s'encanailler. Faubourg Montmartre, parce que c'était pas dit que les gens qui allaient à l'Élysée Matignon, enfin, avenue Victor Hugo, etc., qui habitaient dans le 16e ou le 7e, allaient au fond du Faubourg Montmartre où peu de gens avaient l'habitude d'aller. Et la banlieue ou la province, les uns arrivaient avec leur limousine et les autres arrivaient en métro. Mais sur la piste de danse, tout le monde avait le même look. et s'amuser ensemble. Donc, c'est ça, je pense que je ne l'ai pas vécu au 54 personnellement. Peut-être d'autres peuvent raconter d'autres histoires. Moi, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, à part dans des festivals ou dans en province, en tous les cas dans des festivals ou des fêtes de village, disons. Mm-hmm.
C'est une époque aussi où on entend beaucoup dans les interviews que les boîtes de nuit étaient vraiment un lieu de rencontre où on pouvait faire sa carrière aussi. J'ai le sentiment que beaucoup de gens ont rencontré les bonnes personnes à ces époques-là. Ils ont fait des carrières fabuleuses. Est-ce que c'est vrai?
Ben, je pense que c'était, comme je disais, c'était une époque où on s'exprimait beaucoup, où on sortait, pour parler. Enfin, on sortait pas pour parler, oui, ou pour parler, pour danser, mais enfin, on sortait aussi pour se faire voir, j'allais dire, pour se vendre. pas tout le monde. Mais c'est vrai que, il y avait des conversations vraiment intenses, en tous les cas au fumoir au palace, après au privilège, puisque le privilège a été devenu aussi un restaurant, et que la musique était peut-être un peu moins forte. C'est vrai que dans les boîtes de nuit, en fait, il y avait un endroit qu'on appelait chill out. Je pense que ça n'existe pour ainsi dire plus.
Chill out.
Ouais. qui était un endroit un peu
insonorisé, où il y avait un peu moins de bruit.
Moins de bruit.
Un peu plus calme.
Ouais. Un peu plus calme. Alors d'accord. Après, on appelait ça un VIP room peut-être, ou je sais pas. Mais c'était un endroit quand même où on pouvait discuter. Puis vous savez bien qu'avec deux verres d'alcool, on s'exprime beaucoup plus facilement.
Ça délie les langues, ouais.
voilà, c'est vrai que moi souvent on m'a parlé le soir de projets et du coup le lendemain en téléphonant, on continuait cette conversation qui avait été entamée la veille au soir.
Et vous étiez entremetteuse en fait entre les gens, parce que vous écoutiez toutes les histoires et puis vous disiez hop, là il y a quelque chose.
On peut être entremetteur, oui, mais on peut aussi en profiter. Mais c'est vrai, en tous les cas, les endroits étaient faits. Mais je pense pas qu'on ait été plus créatif que maintenant. On avait le B2B existait beaucoup plus. D'abord parce que il fallait parler, puisqu'on n'avait pas de moyens de transmission qui maintenant existent.
Oui, c'est vrai.
Si on ne parlait pas, si on n'allait pas se vendre, ce que je disais il y a deux minutes, à part vos agents, personne n'allait présenter votre travail.
Ouais, il fallait se vendre en permanence. Ouais.
Il fallait se montrer, vendre. Alors maintenant, il faut toujours se montrer dans des bons endroits. Ouais.
Alors Instagram a remplacé le nightclub.
écoutez, probablement, puisque des clubs de rencontres sur le net existent.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et juste pour en finir sur la nightlife, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des familles un équivalent au Palace et à cette clique du Palace, où ça a complètement disparu, où c'est beaucoup plus petit, quoi?
Alors la clique du Palace, comme je vous disais, c'était plusieurs cliques à la fois. Et le lieu permettait que plusieurs cliques se rencontrent. C'est vrai qu'il y avait le studio Berceau était un fan du Palace et en tous les cas ses élèves.
Marie Ruki et Anne étaient toujours là, non,
sur le Marie Ruki était là plus que sa fille, qui était jeune à l'époque. Mais c'est surtout tous ses élèves comme Vincent Daré, Lou Boutin, etc. Oui. Ça, c'est une génération qui a porté aussi, une jeune génération, puisque elle est arrivée un peu plus tard, c'est-à-dire le Palace a ouvert en 78, et cette génération studio au Berceau est plutôt arrivée en 81 avec Paquita et François Baudot qui ont rejoint la famille Palace. Je pense que il y a des clics qui existent toujours. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de lieu pour se mélanger, à part maintenant dans des lieux qui sont à la limite de limitrophes de Paris, où il y a des grands garages, ou des grands immeubles en voie de démolition ou en voie de construction, qui leur servent d'espace. Je pense que c'est cela qui a manqué entre le Palace de l'époque et le Péripate, par exemple, de maintenant.
Très bien. Parlons de la création de Deuxième Bureau. Ça a commencé par quoi ? Pourquoi vous avez voulu monter votre agence de communication, d'ailleurs ? Votre bureau de communication, pardon.
Ben, après le Palace, c'était un petit peu difficile de trouver du travail dans des... parce que ben, le Palace avait une très bonne réputation, mais pas forcément une bonne pour les gens qui y travaillaient. Je pense que les gens ont pensé que je n'allais pas me lever le matin, que ben voilà, j'avais peut-être une trop forte gueule. Et du coup, ben, je n'ai trouvé qu'une solution, c'était de faire mon bureau. Mais en fait, j'ai été poussé par deux personnes. Enfin, Vivienne Westwood m'avait demandé de l'aider parce qu'elle voulait présenter à Paris. C'était en 83. 3-4 et Jean-Paul Goud voulait quitter New York et se réinstaller à Paris, et il avait déjà il était en train d'éditer un premier Jungle Fever, un premier livre, et il m'avait demandé de m'occuper du lancement de ce livre. Et du coup, je suis devenu agent de Jean-Paul Goud, enfin, agent pour l'image fixe, mais à l'époque, il faisait pas encore de films publicitaires. Et ces deux personnes, je les avais rencontrées au Palace.
Ouais. Ouais,
enfin, Vivienne Westwood, un peu, je l'avais rencontrée avant, mais bon, ces deux personnes, et Jean-Paul Goud aussi d'ailleurs, ouais. mais je les avais re-rencontrées au Palace. Et ça a été donc Deuxième Bureau, une suite du Palace qui s'est fait comme ça.
D'accord. Okay.
Sans réfléchir.
Ok. Et il me semble qu'il y avait un troisième client, c'était Swatch.
Quand j'ai ouvert donc Deuxième Bureau, Swatch s'installait à Paris, et c'est vrai que Boris Safronov, qui dirigeait une agence de publicité qui s'appelait Safronov et quelque chose, j'ai oublié, qui m'avait vu acter au Palace, a trouvé que j'étais la personne idéale pour lancer les Swatch.
Dans le mille. Et d'ailleurs, ça a cartonné, d'ailleurs.
Et ça cartonnait. Et puis, c'est vrai que en fait, on a fait, peut-être toujours avant l'heure, on a distribué quelques Swatch, qui étaient le premier modèle iconique, qui était une Swatch toute noire, à écran noir avec des aiguilles noires, que nous avons donné à une cinquantaine de personnes. Et puis, très vite, Swatch sur les idées de Safronov, avait décidé de faire des modèles à tirage limité avec des artistes.
Ouais.
Et la première Swatch d'artistes était celle de Loulou et Kiki Picasso, qui s'est vendue quelques années plus tard à 10 000 euros. Qui se vendait. Et on en avait tiré 125, je crois, qui ont été distribué lors d'une soirée à l'IRCAM qu'à des gens disons, reconnue de, ouais. de tout le monde.
Donc, ça n'a pas trop changé, en fait. On faisait déjà des dotations, de cette dotation produit aux influenceurs de l'époque, pour qu'elles soient vues sur les photos, dans les magazines, etc. et pour que les petites gens achètent. C'est ça?
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles couture pour que les gens achètent des modèles prêts à porter, disons. À côté de ça, je pense que c'était plutôt pour faire le buzz parce que je ne vois aucune photo d'une personnalité portant sa Kiki Picasso. Non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est je pense qu'on jouait beaucoup plus avec le buzz qu'avec des photos de. Puis je pense qu'à l'époque, j'ai vu ça dans la rue, ça n'existait pas. Enfin, le street photo n'existait pas non plus.
Ça arrivait bien plus tard. Et comment on fait le buzz alors? Est-ce que vous avez une recette pour faire le buzz?
Choisir les bonnes personnes pour le faire.
Ouais, c'est ça. C'est assez cohérent. C'est choisir les bonnes personnes pour se rencontrer. C'est-à-dire quand on lance un nouveau produit, il faut choisir la bonne personne pour ce bon produit. Comme on fait une collaboration, quoi. Quand on fait.
Je pense que moi, en tous les cas, j'ai toujours joué avec le mélange des genres et des gens. Je pense que c'est ça le plus important pour rassembler tout le monde. Après, c'est vrai que. Je pense que maintenant, les gens s'enferment un peu, n'ouvrent pas assez leur liste d'invités, disons. Restent enfermés dans une même famille.
Comment ça se fait, ça?
Ouais, je pense... je pense qu'ils n'ont pas forcément l'intérêt... ils ne voient pas forcément un intérêt de mélanger... de faire du presse et du hors presse,
quand vous dites ça, c'est que
enfin, c'est pas vrai d'ailleurs. Je pense que même que certains y arrivent, ouais. Je pense que c'est vrai que les soirées, même si les soirées du Palace dont on parlait ou c'est le débat après, avaient un but de promouvoir l'espace, le lieu. C'était des soirées qui n'étaient pas commerciales. Je veux dire, on vendait le lieu, mais on ne vendait pas un produit. Et je pense que malheureusement, actuellement, beaucoup de fêtes sont là pour promouvoir un produit. Ou faire un lancement d'un produit, donc promouvoir le produit, évidemment. Je sais pas.
Comment il faudrait le faire aujourd'hui, alors?
Ça dépend, en fait. Ce qu'il y avait avec le Palace, quand on a fait avec Clan Campbell la nuit des clans, alors là, ça vendait du produit, ça vendait du produit. C'était pour promouvoir le whisky dans les boîtes de nuit. Mais c'était des fêtes à Bercy avec 12 000 personnes. Puis en fait, à la fin, ils ont arrêté puisqu'on buvait trop. mais au départ, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est. Comme c'était très ouvert, ça faisait en tous les cas pas. Aussi commercial que maintenant.
D'accord, ok, ouais, je comprends. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Comment on lançait un créateur à l'époque et comment on le lance aujourd'hui? Est-ce que ça a vraiment changé, ça? Ou c'est toujours les mêmes mécanismes?
Alors, d'abord, il y a différentes créations créateurs qui font différentes créations. Je pense que vendre du prêt-à-porter de luxe, c'est différent de vendre un t-shirt. Vendre des accessoires, c'est différent que de vendre des vêtements. Donc déjà, ça, c'est un petit peu à étudier. C'est vrai que on remarque quand même que toutes les marques qui se lancent sur Internet sont quand même des marques plus casual, un peu moins créatives, même s'il y a un concept. Mais ça, la créativité est peut-être un tout petit peu oubliée par rapport au produit, qui est un peu plus marketé. Donc déjà, oui, on peut se lancer maintenant par Internet, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en même temps, je pense qu'il... Alors, après, peut-être l'avenir me le dira, il vaut mieux être entouré de peut-être de 1000 influenceurs que de 100 000 influenceurs. Est-ce que c'est pas plus rentable? Est-ce que voilà, ça, moi j'aimerais mieux être entouré de 1000 influenceurs qui me suivent que de 100 000 qui m'auront vu qu'une fois. Mais c'est mon point de vue.
C'est la théorie des 1000 vrais fans, quoi. Il faut mieux 1000 personnes qui soient vraiment accrochées à vous et qui achètent systématiquement tout ce que vous.
Oui, en tous les cas, qui regardent ce que vous faites.
Et qui en parlent.
Et qui vous suivent. Enfin, ouais. Après, qui n'aiment ou qui n'aiment pas une collection, mais qui suivent votre parcours. Je pense que c'est plus intéressant, en tous les cas.
Ouais, c'est clair. Et donc après, vous avez accompagné des gens comme John Galliano, comme Matsuda, etc. Et puis, rapidement aussi, enfin, assez rapidement, vous allez me le dire, mais vous avez commencé à faire la tâche, enfin à vous occuper d'événements photographiques, du festival de hier, de Première Vision, etc. Tous ces gens sont arrivés à quel moment dans l'histoire de Deuxième Bureau et pourquoi vous êtes dirigé vers ça et surtout vous êtes quand même très très marqué photographie avec Visa pour l'image depuis plus de 30 ans. Racontez-nous comment ça s'est passé tout ça, parce que la photographie, à part les photos au palace, enfin la gestion des photographes du palace, on l'a pas senti jusqu'à présent.
De par dès le départ, enfin du deuxième bureau, dès la naissance du deuxième bureau, deuxième bureau a été diversifié par Vivienne Westwood qui faisait de la mode, Jean-Paul Good qui faisait de l'image et des publicités. Et Swatch qui faisait donc un accessoire. Au Palace, je m'étais occupé de tout ce qui était avant l'ouverture à 22h30 de la boîte de nuit, qui était des concerts, donc de la musique, des avant-premières de cinéma, de spectacles avec le festival d'automne, etc. Et tout de suite, donc, j'avais voulu diversifier les activités du deuxième bureau, ne voulant pas me retrouver à être que attaché de presse, enfin que de promouvoir de la mode. Je trouvais ça plus intéressant pour ma tête et plus dit, voilà, plus.
Ouais, c'est beaucoup plus amusant, quoi. Je veux dire, de faire plein de choses, en fait.
Alors, aussi, j'avais l'habitude de travailler au Festival de Cannes, mais plutôt en off. Et quand Visa pour l'image est né, les organisateurs sont venus me voir pour faire la promotion du festival et aider à l'organisation, puisqu'ils m'avaient connu au Festival de Cannes en train de faire différentes activités autres que celles du cinéma. Ouais. Voilà. Et puis, comme j'étais devenu agent de photographe, je m'occupais de la promotion d'un festival de photojournalisme, petit à petit, d'autres gens de la photo sont venus me voir. Bien plus tard, d'ailleurs, même Magnum, avec lequel nous avons passé l'année de leur 60e anniversaire. Donc, ça fait une dizaine d'années. Ça fait 10 ans. Et on s'est ouvert à différentes photographies, genres de photographies, en s'occupant de plusieurs festivals de photos. et de galeries ou de lancements de livres, de photos. Beaucoup, je dois dire, liés au documentaire.
C'est quoi, c'est par affinité ou c'est le fruit du hasard?
Je pense que le côté humaniste vient de ma famille.
Ouais. Donc c'est vraiment qu'une histoire de rencontre à chaque fois finalement. J'ai l'impression que chaque rencontre amène à une nouvelle rencontre, amène à un nouveau projet. C'est ça vrai. Un peu l'histoire de votre vie. Hein.
Faudrait pas que ça s'arrête.
Bah ouais, c'est clair, je vous le souhaite. Il y a un sujet moi, dont j'ai envie de parler, c'est quand vous me parlez de Jean-Paul Goude, de Newton, etc. Être agent d'un photographe comme ça, ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont besoin d'un agent? Et c'est quoi la relation qu'un agent a avec son photographe? C'est quoi les discussions, le quotidien, les prises de décision? Comment ça se passe?
Bah, c'est les mêmes qu'un attaché de presse a avec un créateur de mode, je veux dire. C'est de trouver la manière de vendre le photographe ou le créateur, soit à la presse, soit à des annonceurs. C'est d'être pleine de son sujet, de savoir. Alors maintenant, je ne suis plus agent de photographe, donc je ne peux pas vous dire comment maintenant les agents arrivent à vendre certains photographes, parce que ça doit être aussi beaucoup par Instagram, beaucoup par contact, B2B, etc., de se balader chez les annonceurs, dans les agences de publicité. Avant, on avait des books qui pesaient des tonnes. Maintenant, je pense qu'un petit ordinateur doit suffire pour montrer le travail de photographe. Sauf que quand vous avez même Connexion ou le book qui fait ses foires dans le monde entier, enfin qui fait ses... Oui, de présenter des photographes et des books... Il y a un moment, on a besoin aussi de voir de la matière, de la photo. On a besoin d'avoir des tables rondes et d'entendre des gens. Le texte est à nouveau peut-être, et la matière est à nouveau peut-être un peu à remettre au goût du jour.
Ouais. Ce serait quoi la touch Sylvie Grumbach?
C'est à vous de me le dire.
Ça, c'est bien répondu. Non, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, les gens, à part votre carnet d'adresse? J'imagine que... Enfin, c'est quand même une relation, c'est... Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on irait chez Lucien Pagès, ou chez Delix, ou chez Sylvie Grumbach?
Je crois que c'est... Alors, d'abord... Je pense que c'est la confiance que vous pouvez porter aux gens qui vous fait choisir tel ou tel bureau, ou ce qu'ils représentent de l'époque. C'est vrai que actuellement, certains bureaux sont plus à la mode que deuxième bureau. Je pense aussi que c'est des histoires de génération, des histoires des gens qui vous entourent à l'intérieur de votre bureau, qui peuvent... faire venir tel ou tel client et tel moi je pense que deuxième bureau c'est très familial, peut-être un peu trop maintenant, mais je pense que le mélange de générations aussi dans un bureau est très constructif. Je pense que oui, c'est vrai que maintenant on vient nous voir un peu plus pour la photo que pour de la mode, parce que ben on travaille beaucoup dans la photo. C'est vrai que par contre, il y a des jeunes créateurs qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on travaille pour le festival d'hier et qu'on aime beaucoup et qu'on soutient beaucoup encore la jeune création. C'est vrai que c'est plutôt des jeunes créateurs qui viennent demander conseil, ils viennent nous demander de les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'envolent un petit peu.
Ouais. Comment vous choisissez d'ailleurs les... Enfin, je ne sais pas si vous avez le luxe de choisir vos clients, mais en tout cas, j'imagine
les
que...
Les créateurs, oui.
Ouais. En tout cas, j'imagine qu'il y a des, il y a certains projets qui vous attirent plus que d'autres. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez un projet ?
Je crois qu'il faut que ce projet provoque quelque chose en moi. Qu'il faut peut-être que ce qu'on me raconte sorte du schéma traditionnel.
Ouais.
Que j'ai confiance en la personne, donc j'ai cette relation de confiance.
Bien sûr.
Que j'ai envie de partager et que les gens qui l'entourent m'intéressent et voilà, c'est un coup de cœur.
Alors je vais vous poser une question un peu compliquée. Mais pour vous, c'est quoi votre pronostic pour la mode dans les années qui viennent? Comment vous voyez les choses évoluer? Comment on se démarque aujourd'hui? C'est une question très difficile. Hein. Je suis pas gentil.
Comment se démarquer aujourd'hui?
Parce que non, mais enfin pour remettre les choses en perspective, aujourd'hui, en fait, ça n'a jamais été aussi simple de lancer une marque. Mais ça n'a jamais été aussi compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de monde sur le marché que se faire entendre, c'est quand même très, très, très compliqué. Et en même temps, voilà, enfin, je dis que c'est facile de lancer une marque parce que, grosso modo, avec un crowdfunding, avec 5-10 000 euros, il y a plein de gens qui arrivent à lancer une marque, à lancer une petite production, en tout cas, à lancer quelques prototypes pour les présenter soit en salon, soit les vendre directement sur Internet, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mmh. Mais... voilà, n'empêche qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée est tellement faible que c'est très compliqué d'exister et de sortir du truc, quoi.
Ce qui est difficile, c'est d'exister sur un long terme.
Ouais.
Ce qui est difficile, je pense, mais ça a toujours été difficile. Quand vous voyez des gens comme Jean Colonna ou Martine Sidbon, etc., qui ont dû un talent fou et qui n'ont jamais pu développer réellement leur marque. Ce qui est difficile, c'est de se battre avec des mastodontes, enfin les marques, les groupes de luxe. Alors après, comment se démarquer quand on ne fait pas partie d'un des groupes? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez fait l'accessoire de la saison? Parce que c'est vrai que l'accessoire a existé peu avant. Les marques ne faisaient pas d'accessoires. Maintenant, ils sont obligés d'avoir des accessoires pour vivre ou pour survivre. Est-ce que c'est rentrer dans une marque par un accessoire? C'est d'ailleurs... ce que fait maintenant Jérôme Dreyfus, qui après avoir interrompu sa marque de vêtements et re-rentre par le sac.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, petit à petit, il se remet à faire des vêtements. C'est vrai que ça aussi, ça a changé. Avant, on achetait des vêtements, maintenant on achète des accessoires. Donc ça dépend aussi, puis ça, même si avec 10 000 euros on arrive à monter sa marque, on va pas très loin quand même.
C'est clair. Hein. Non mais en tout cas on peut avoir une première tester quelque chose, quoi. Tester s'il y a une traction ou pas, quoi.
Oui, mais ça dépend. Vous pouvez avoir 10 000 euros, un pas de porte et vendre des vêtements à votre voisinage et vous en sortir aussi.
Oui.
Ça a toujours aussi existé des couturiers de quartier. Qui vivent très bien et qui vendent que dans le 7e arrondissement à toute une famille un peu bourgeoise peut-être, mais ça existe.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ça dépend jusqu'à où, enfin, quelle est l'histoire que vous voulez raconter et comment vous voulez développer aussi votre vie.
Écoutez, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous diriez à Sylvie 20 ans si vous la croisiez aujourd'hui?
À Sylvie 20 ans?
Ouais.
Qu'est-ce que... vis comme t'as vécu. Fais ce que... Bah, là où le vent t'emporte. En tous les cas, je réalise que j'ai jusqu'à maintenant fait ce qu'il me plaisait de faire. Et je pense que je l'ai assez bien fait, assez bien réalisé, que j'ai fait partager avec une dizaine de personnes depuis une trentaine d'années. Et je suis fier d'avoir vécu aussi longtemps avec Deuxième Bureau.
Ouais. Il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment préféré dans votre carrière ?
Ah bah le Palace, ça c'est évident. Après le Palace, oui, il y a beaucoup. Un moment préféré, non. J'ai eu beaucoup d'émotions et j'en ai toujours. J'en ai toujours quand je vois à Visa pour l'image 2500 personnes qui regardent une projection à Perpignan. J'en ai toujours quand je vois un... Enfin, j'en ai beaucoup moins quand je vois un défilé. Mais il m'est arrivé, un défilé de Victor et Rolf m'a beaucoup touché. Ça faisait longtemps, je crois que entre Viviane Westwood, John Galliano et un ou deux défilés de Victor et Rolf, j'avais pas eu une émotion aussi forte. Il y a des choses. La soirée des clans à Bercy, c'était quand même une folie monstre. Donc tout ça, oui, j'ai vécu génialement bien. J'ai vécu des moments inoubliables.
Et ce serait quoi votre ultime conseil à de jeunes gens ou à un jeune homme ou une jeune femme qui commence sa vie professionnelle? C'est quoi le meilleur conseil à lui donner?
Bah déjà de croire en ce qu'il fait alors on parle de quoi dans quel métier?
Peu importe.
N'importe quel.
Je pense non mais un métier créatif ou même un attaché de presse. Enfin je pense que ouais quelqu'un qui est peut-être dans une industrie créative.
Je crois qu'il faut croire en soi et en croire que, enfin, si le concept est bon, je crois qu'il, d'avoir confiance en soi fait qu'on peut convertir des gens autour de soi et grandir avec.
Très bien. Et ben, ça sera les mots de la fin. Dernière question pour clôturer l'interview. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Claude Brouet.
Très bien. Merci infiniment Sylvie. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.